Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La plupart des députés français soutiennent la politique du gouvernement concernant l'Ukraine, mais des oppositions de plus en plus vives se font jour. C'est ce qui est ressorti hier d'un vote à l'Assemblée. Nous y reviendrons au début de ce journal.
Des camions géants sur les autoroutes européennes. L'autorisation a été votée hier par les eurodéputés. Ils sont censés réduire le trafic de marchandises, mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce point.
Et puis nous irons en Turquie où le chômage des jeunes a encore augmenté et met en péril l'avenir de toute une génération. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour ?
Quels sont les risques des nouveaux OGM ?
2 ans après le début de la guerre en Ukraine, le soutien des députés français à l'armée de Kiev reste majoritaire, mais moins unanime. C'est ce qu'on a pu voir hier à l'Assemblée nationale qui débattait des relations françaises avec l'Ukraine en général et de l'accord bilatéral déjà signé entre Paris et Kiev en particulier. La majorité des députés s'est exprimée en faveur de cet accord grâce au soutien des Républicains, des Socialistes et des Écologistes. Mais alors que le sujet s'impose comme l'un des thèmes majeurs de la campagne des élections européennes. Hier, à Zaïs Perronin, les tensions les plus vives ont eu lieu entre macronistes élus de l'extrême droite et la France insoumise.
4 heures après le début des débats, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dévoile enfin les résultats du vote.
Pour l'adoption, 372 contre 99.
Les voix contre sont celles des insoumis et des communistes qui dénoncent les déclarations va-t-en-guerre du gouvernement. Pierre Dharréville est député communiste des Bouches-du-Rhône.
J'assume la position que nous avons prise, qui est d'en appeler à la paix et de refuser de contribuer à une logique d'escalade. Donc le signal que nous voulons envoyer, c'est celui-là. Parce que de toute manière, il n'y aura de solution que politique dans cette affaire-là. Et cette guerre, elle a déjà fait que des perdants.
Une position que fustige le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard.
Le pacifisme d'extrême-gauche, on le connaît bien, c'est la défaite. Il faut être prêt à pouvoir lutter contre ceux qui veulent envahir. Et donc je regrette le vote, évidemment, de la France insoumise, des communistes. Je pense qu'ils ont raté un moment d'histoire.
Et sur l'abstention du Rassemblement national, le député de Paris ne mâche pas ses mots.
Au moment où il y a la guerre en Europe, ils s'abstiennent. Ils n'ont pas d'avis. Je crois que c'est vraiment l'incarnation même de ce qu'est le Rassemblement national. Au fond, une démission de l'esprit français.
À 3 mois des élections européennes, le député RN de Lyon, Julien Odoul, y voit surtout une instrumentalisation.
Ce qui est profondément choquant, c'est que le gouvernement se sert de la souffrance des Ukrainiens qui est réelle, comme d'un outil électoral, parce que sa seule peur, c'est que le RN arrive aux élections européennes largement en tête et que le pouvoir macroniste s'en trouve fragilisé.
L'accord bilatéral franco-ukrainien sera de nouveau débattu aujourd'hui au Sénat, où les échanges devraient être cette fois moins agités.
Le soutien financier à l'Ukraine, ce sera aussi le sujet du décryptage éco à 7h30. Les parlementaires français ont également adopté définitivement hier une loi réformant le code civil qui suspend automatiquement l'autorité parentale en cas de viol ou agression sexuelle sur un enfant ou bien en cas de crime sur l'autre parent. Une suspension qui sera effective dès la poursuite, c'est-à-dire avant la mise en examen et jusqu'à la décision de justice. La demande émanait à la fois des Nations Unies et de la Commission contre l'inceste et le texte consensuel a été voté à l'unanimité au Sénat. Mais les associations de protection de l'enfance estiment qu'il reste encore du travail. Cécile de Kervas-Douet.
Avec cette nouvelle loi, un enfant victime de viol ou d'agression sexuelle ne sera plus obligé de voir ou même de vivre chez son parent agresseur lors de visites médiatisées ou d'hébergement ou pour les vacances. Car c'est le cas aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas eu condamnation, ce qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette loi choisit donc de mieux protéger l'enfant, mais le problème c'est qu'elle touche très peu des 7,5 millions de personnes qui se disent avoir été victimes d'inceste dans l'enfance, déplore Anne Claire, déléguée générale de l'association Face à l'inceste, qui souhaite la mise en place de l'ordonnance de sûreté de l'enfant.
Ça veut dire qu'on pourrait, sous une huitaine de jours maximum, de pouvoir mobiliser et le procureur de la République et ensuite le juge aux affaires familiales pour envisager une protection immédiate de l'enfant. Et qu'on a quand même aussi un autre élément à prendre en compte, hein, c'est que 9 enfants sur 10 qui ne sont protégés par personne. Donc c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas au stade de la plainte.
Et l'autrice de cette nouvelle loi en a bien conscience, la loi ne fait pas tout. Il faut une politique plus holistique pour protéger les enfants de leur agresseur, reconnaît Isabelle Santiago, députée PS du Val-de-Marne.
Ça s'accompagne d'un plan global en fait de l'enfance. On a besoin que la société, de manière pluridisciplinaire,
trouve les moyens d'accompagner ses enfants. On a absolument besoin que le psychotrauma soit pris en charge jusqu'à blanc majorité. Et ça doit être remboursé par la Sécurité sociale. J'ai déposé des amendements à chaque fois dans le PLFSS. Je ne les ai pas vus se traduire concrètement.
En attendant, une autre proposition de loi est en cours, portée par un député de la majorité pour protéger les enfants dans les 8 jours après les révélations de crimes ou de violences sexuelles.
Autre dossier examiné hier par les députés, la fusion entre l'ASN, le gendarme du nucléaire, et l'IRSN, l'expert technique du nucléaire. L'article central du projet de loi sur la sûreté nucléaire qui prévoit donc cette fusion a été voté sous les protestations de la gauche. Les députés ont rétabli cet article que des députés d'opposition étaient parvenus à supprimer en commission il y a une semaine. Enfin, il s'agit là encore de fusion et encore là aussi d'un serpent de mer, le regroupement entre France Télévisions et Radio France sous la houlette d'une holding commune. Hier devant le Sénat, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est exprimer une nouvelle fois en faveur de cette fusion qu'elle voudrait voir aboutir avant la fin de l'année. On y reviendra dans le journal de 8 heures. C'est une mesure votée cette fois par le Parlement européen à Strasbourg, celle qui autorise la circulation sur les autoroutes européennes de ce qu'on appelle les méga-camions, 25 mètres de long jusqu'à 60 tonnes et parfois 2 remorques, des engins qui permettront aux transporteurs des économies chiffrées à 45 milliards d'euros pour les routes, les automobilistes et l'environnement. En revanche, c'est une autre histoire, les précisions de Talita Thiraud.
Les méga-camions transportent entre 50 et 75% de marchandises en plus. Pour Olivier Poncelet, délégué général de l'Union des entreprises de transport et de logistique, c'est le combo parfait pour allier économie et écologie.
À partir du moment où vous massifiez le transport de marchandises, vous réduisez le nombre de véhicules sur les routes. Si on permettait aux 44 tonnes de traverser la frontière entre la France et la Belgique, ça permettrait de réduire de 15% le nombre de camions qui traverseraient la frontière avec la Belgique. Pour un 60 tonnes, les estimations vont jusqu'à 30% d'économie de carburant à la tonne transportée. Et c'est la même chose du coup sur les émissions de CO2.
Ces véhicules pèsent environ 16 tonnes de plus que ce qui était autorisé auparavant. Il faudra donc adapter les routes françaises, des travaux et des coûts inacceptables pour Karima Deli, eurodéputée écologiste.
Nos infrastructures françaises ne sont pas faites pour la circulation de ces méga-camions. Ni nos routes, ni nos ronds-points, ni les barrières, ni les ponts, ni les tunnels. Donc, bien sûr, ça va détériorer les routes plus vite que prévu, puisque les routes détériorées vont augmenter les risques pour la sécurité routière. Mais tous ces travaux devront être faits aux frais du contribuable français. Donc là aussi, ce n'est pas possible.
Autrement dit, une catastrophe écologique pour l'eurodéputé. Cette mesure ajoute 10 millions de camions par an et produit 6 millions de tonnes de CO2 par an sur les routes européennes.
Talita Thiraud.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Un premier bateau chargé de vivres est en route depuis hier pour la bande de Gaza, une goutte d'eau pour tenter d'enrayer la famine qui se profile.
Hier, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé aux Nations Unies l'utilisation de ce qu'il appelle la faim comme arme de guerre. Cette crise humanitaire est causée par l'homme, a-t-il déclaré, en réclamant l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. L'offensive israélienne, depuis 5 mois, y a fait 31 184 morts selon le ministère de la Santé du Hamas, très majoritairement des civils. Et pourtant, depuis Rafah, où ils sont massés, quelques Palestiniens, Gazaouis, tentent de retourner parfois dans la ville de Khan Younes pour constater l'ampleur des dégâts sur leur logement, des expéditions courtes à très haut risque. Les familles réalisent alors l'ampleur de ce qu'elles ont perdu dans cette guerre. Le reportage d'Étienne Monin qui a pu joindre des Gazaouis.
Quand j'ai rentré dans ma chambre, j'avais un choc. Je ne peux pas bouger.
Ce samedi, avec une partie de sa famille, Asma a remis les pieds dans son appartement au 3e étage d'un immeuble planté à la sortie de Khan Younes.
C'était tout vide. Les gens viennent 5 minutes, 10 minutes voir la situation, voir leurs appartements et ils rentrent.
Avant de faire la route depuis Rafah, où elle est déplacée depuis le mois de décembre, cette enseignante a vu sur les réseaux sociaux que ce secteur de Khan Younes était redevenu accessible.
Alors on a fait le courage et on est allé vite, vite.
Mais l'appartement qui a été acheté il y a plus de 10 ans n'a plus de porte d'entrée. Les placards ont été ouverts, les vêtements sont au sol. Asma a le sentiment d'être à la fois victime de l'armée et des pilleurs.
Les voleurs, ils ont volé des choses, la télévision, des choses de la cuisine, la bouteille de gaz, plein de choses. Ils ont tout massacré, les voleurs. D'un côté, les Israéliens, à cause des attaques et des bombardements, d'un autre côté, les voleurs.
La visite est furtive. En moins de 20 minutes, la famille quitte ce quartier fantomatique par peur d'un retour de l'armée israélienne.
Joe Biden et Donald Trump ont remporté assez de délégués hier pour s'assurer d'être les candidats de leur parti à l'élection présidentielle américaine. C'est le résultat des dernières primaires dans les États de Géorgie, du Mississippi et de Washington. La Turquie se débat toujours avec son économie frappée par un séisme dévastateur et une hausse énorme du coût de la vie. Les derniers chiffres du chômage dans le pays ont en outre atteint un record hors période de pandémie. Selon les statistiques officielles, un peu plus de 9% des Turcs sont sans emploi. Pardon.
Il est 7h10, j'en profite pour donner l'heure.
Allez, 26,5% si on prend en compte les personnes au chômage, mais qui ne sont plus dans une recherche active. Quant aux 15-24 ans, ils sont particulièrement touchés. Le reportage sur place de notre correspondante Marie-Pierre Véraud.
Our a 25 ans. Diplômé d'une école de tourisme, il ne parvient pas à trouver un emploi correctement rétribué et a choisi de travailler comme guide en freelance.
Je me souviens il y a une dizaine d'années environ, quand vous sortiez avec un diplôme de l'université, vous trouviez facilement un travail. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la pire des situations. Vous le savez, c'est tellement dur en ce moment. Si vous voulez décrocher un boulot, il ne faut pas être regardant sur les conditions.
Travail sous-payé, non déclaré. Beaucoup de diplômés songent à l'exil. Pour la main-d'œuvre moins qualifiée, c'est encore pire. L'industrie peine à créer des emplois. L'agriculture turque est en déclin. Le taux de chômage des femmes est encore plus élevé. Un niveau d'éducation plus faible. Un discours politique qui les consigne à la maison. Ayten se contente de petits boulots au noir. Mais elle se fait du souci pour son jeune fils. Cette supportrice de toujours de l'AKP, le parti au pouvoir, ne cache désormais plus son désarroi.
J'ai beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que ce gouvernement essaie de couler ce pays ou alors ce sont des incapables? Pour moi, il faut en changer.
Il y aurait selon les syndicats quelques 10 millions de chômeurs en Turquie. C'est 2 millions de plus qu'il y a un an, 5 millions de plus en 10 ans.
L'inflation y atteint aussi des sommets en Argentine. Alors que des coupes draconiennes dans les dépenses publiques sont censées aider le pays à se rétablir financièrement, voilà que le président à la tronçonneuse, l'ultra-libéral et ultra-conservateur Javier Milei, se retrouve en pleine polémique. Le chantre des économies budgétaires s'est en effet fait surprendre à augmenter son salaire et celui des hauts fonctionnaires du gouvernement, ce que les Argentins n'ont pas laissé passer. Explication de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
Premier acte, la semaine dernière, Milei signe un décret autorisant une augmentation de salaire pour lui-même et son gouvernement. Deuxième acte, interrogé par un journaliste sur la hausse de ses revenus, l'ultralibéral accuse d'abord Cristina Kirchner, l'ex-présidente.
Ce qui s'est passé, c'est que Cristina Kirchner a fait passer un décret. Il stipule que les cadres ne peuvent pas gagner moins que leurs employés. Or, il y a eu une négociation salariale et les salaires ont été augmentés. Donc, nos salaires ont été augmentés en même temps.
Immédiatement, Cristina Kirchner répond à Milei sur les réseaux sociaux avec ironie. « Je pensais que vous étiez plus courageux, monsieur le Président. Vous n'avez rien trouvé de mieux que de rejeter la faute sur moi pour un décret signé il y a 14 ans », publie-t-elle. Enfin, dernier acte, Milei fait marche arrière, annule le décret, mais évite encore l'autocritique. Cette fois, il accuse le ministre du Travail dans une interview télévisée.
Le ministre du Travail, eh bien, j'ai décidé de le licencier. Il doit l'apprendre en ce moment même. À cause de cette erreur qu'il n'aurait pas dû commettre. Pourtant, j'avais été bien clair. En janvier, les ministres avaient accepté le gel de nos salaires.
Un dénouement surprenant et en direct. C'est le quatrième haut fonctionnaire licencié par Milei en 3 mois. Le nouveau ministre du Travail sera nommé dans les jours à venir.
Retour en France avec un mot du temps de ce mercredi. Plus calme et ensoleillé sur le sud et l'ouest. La Charente-Maritime et la Gironde restent en vigilance orange au cru. Entre 4 et 10 degrés en général ce matin. Entre 13 et 21 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture, Guillaume Erner.
Voilà, merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Et dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton, quels sont les risques des nouveaux OGM ?